Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Les Chinois ne sont plus les seuls à être attirés par l'Afrique, profitant que les Français n'investissent plus autant. Les entreprises turques ciblent elles aussi le continent et elles sont soutenues par un gouvernement en quête d'influence sur la scène internationale. Istanbul voit passer de nombreux entrepreneurs turcs et africains qui parfois développent des projets communs, comme lors de cette première soirée d'affaires Turquie-Afrique, centrée justement sur la francophonie. Arnaud Lauer s'y est rendu.
Investisseurs qui veulent aller en Afrique et au Cameroun en principe.
Qui dit soirée Turquie-Afrique et relations économiques dit DEIC. Le Comité des relations économiques extérieures, une agence d'État, est un incontournable du développement commercial de la Turquie à l'étranger. Et le continent africain est devenu sa priorité. Ali Sezen, responsable Afrique de l'Ouest et Guinée équatoriale, brandit ces chiffres comme des trophées.
12 millions de
Au début des années 2000, le volume des échanges entre la Turquie et l'Afrique n'excédait pas 100 millions de dollars. Fin 2015, le volume de ces échanges s'élevait à environ 20 milliards de dollars. Notre objectif est de le porter à 100 milliards pour 2023. Dans les 25 prochaines années, nous sommes sûrs que l'Afrique deviendra le centre mondial des profits. Rendez-vous compte, la contribution actuelle des États-Unis au commerce mondial est de 16 000 milliards de dollars, mais nous prévoyons qu'en 2050, la contribution de l'Afrique représentera 49 000 milliards de dollars.
Parmi tous les secteurs, c'est dans la construction que les entreprises turques sont de loin les plus actives.
Les Turcs mènent pour 55 milliards de dollars de projets. Ils ont porté 1152 projets sur le continent dans les 20 prochaines années. La valeur totale des projets de construction en Afrique représentera 40 000 milliards de dollars. Il n'y a aucun endroit comparable dans le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés et nous sommes loin de rivaliser avec la Chine qui est capable de déployer des financements colossaux. Mais nous savons aussi que la qualité des projets chinois est moins apprécié que la nôtre. C'est une chance que nous exploitons. En 2015, quand nous avons connu une grave crise avec la Russie, pays où 4000 constructeurs turcs étaient actifs, une partie d'entre eux se sont tournés vers l'Afrique. Ils ne l'ont pas regretté.
La société Souma, un géant turc du bâtiment, n'a pas attendu 2015 pour s'intéresser à l'Afrique. En 6 ans, elle a mené pour 1 milliard de dollars de projets sur le continent, auquel s'ajoute un autre milliard pour les projets en cours. Demir Holcher, son directeur Afrique de l'Est.
Ce sont des projets qui réclament de lourds financements. Le simple fait que nous puissions concurrencer les Chinois, même si les volumes n'ont rien à voir, est important. Nous voyons et nous sentons que nous sommes soutenus par l'État turc. La banque de crédit à l'exportation Exim Bank contribue beaucoup à la réussite des projets.
Il n'y a pas que la construction. Chez Oussoumanou représente le groupe hospitalier Adjebadem en Afrique centrale et de l'Ouest. Parmi sa longue liste de projets, celui d'équiper le Cameroun d'un service d'aide médicale urgente, centralisé à Yaoundé et opérationnel pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce Camerounais est titulaire d'un master en marketing de l'université francophone de Galatasaray à Istanbul. Selon lui, les entreprises turques ont intérêt à embaucher des Africains formés en Turquie, surtout les francophones.
Recruter ces Africains, ils ont non seulement des avantages de maîtriser l'Afrique, les avantages aussi linguistiques. Dans les grandes entreprises turques aujourd'hui, les anglophones, c'est très facile de les trouver. Mais quand on parle des francophones, dès qu'on dit le français tout de suite, vous allez voir que les responsables commencent à trembler et palpiter. Les Africains, dans les pays francophones, ils maîtrisent leur terrain. Et puis, ils connaissent aussi maintenant la culture turque, étant donné qu'ils ont étudié en Turquie. Donc, je me dis que c'est les ambassadeurs numéro un pour la Turquie.
La Turquie a compris cet enjeu. Chaque année, le gouvernement offre des centaines de bourses d'études à de jeunes Africains comme Emmanuel Engar. Cet autre Camerounais étudie le génie chimique à l'université technique Yıldız. Mais son passage par la Turquie lui a donné d'autres idées, des idées d'entrepreneuriat.
J'ai demandé à une compagnie qui fait dans le traitement de l'eau, qui est une très grande compagnie en Turquie, si elle pouvait m'accompagner, parce que j'ai des projets dans le domaine de l'eau pour le Cameroun. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ma recherche ne va pas s'arrêter dans le laboratoire. Je pourrais en même temps voir à quoi ma recherche peut servir à monsieur tout le monde. Et pour moi, ça, c'est fantastique.
Pour mieux s'immerger dans ces milieux d'affaires et partager ses expériences, cet étudiant qui ne manque pas d'humour a créé le blog Manjibo, du nom de son village natal. Un site notamment consulté par les entrepreneurs turcs intéressés par l'Afrique.
Généralement, ils ont une idée mais très souvent, les idées ne sont pas exactes. Ils ont les idées qu'ils ont reçues de la littérature qui déjà ne fait pas trop l'éloge de l'Afrique, de l'histoire qui déjà ne favorise pas l'Afrique. Pour eux, parfois, c'est un mystère et ils ont peur. En étudiant ici, en parlant le turc, on peut leur expliquer certaines choses en turc. J'ai fait, par exemple, déjà près de 3 voyages en Afrique avec des entrepreneurs turcs. Ils tremblaient carrément, ils se disaient « Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que... » Il fallait que je les rassure et parfois que je les effraie un peu, vous serez mangés et tout et tout. Bon, mais quand on arrive, carrément, on ne veut plus partir.
Les autorités turques, en tout cas, n'ont pas l'intention d'en partir. L'agence DX se prépare à inaugurer 6 dépôts logistiques au Cameroun, Bénin, Ghana, Tanzanie, Kenya et Mozambique pour centraliser et donc faciliter les échanges des entreprises turques depuis et vers le continent.
Voilà une étrange caractéristique de la politique allemande. Dans le Land de Bavière, il est impossible de voter pour la CDU, le parti d'Angela Merkel. S'ils veulent élire la chancelière, les 9 millions d'électeurs doivent se rabattre sur la CSU, son alliée régionale, mais bien plus conservatrice. Une situation que contestent justement 2 avocats, Pauline Curté à Munich.
Mais qu'a donc à voir la CSU, parti catholique à la tête de la Bavière, très critique sur l'accueil des réfugiés, avec le parti d'Angela Merkel ? Quoi de commun entre son patron, Horst Seehofer, qui se présente en ami de Vladimir Poutine et du premier ministre hongrois Viktor Orban, avec la chancelière ? Pas grand-chose, si ce n'est un accord électoral qui remonte aux années 50. D'après cette règle non écrite, la CDU ne présentera jamais de candidat aux élections en Bavière, laissant la place libre à la CSU. Seulement voilà, pour 2 avocats de la ville bavaroise de Nuremberg, cette règle est inconstitutionnelle. Rainer et Christine Roth s'appuient sur l'article 38 de la Constitution allemande qui garantit aux électeurs le droit de voter librement. Pour eux, même si Angela Merkel s'est mise d'accord avec son allié bavarois pour enterrer l'âge de guerre jusqu'aux élections de septembre, voter en 2017 pour la CSU ou la CDU n'a pas grand-chose à voir, surtout si l'on s'intéresse à la question de l'accueil des réfugiés. Avec l'élection de Trump, le Brexit, je fais confiance à Angela Merkel pour diriger l'Allemagne, mais je n'ai pas le droit de voter pour elle, raconte Rainer Roth dans le quotidien munichois Süddeutsche Zeitung. Les 2 avocats constitutionnalistes ont donc porté l'affaire devant la justice. Ils se sont fait débouter en première instance. Ils ne se découragent pourtant pas et assurent vouloir aller jusqu'à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction d'Allemagne.
On la voyait plus romantique, la vie ensemble, entre nous pas d'histoire de fric. On se rassemble, on était jeunes, elle était belle, comme une histoire, on bâtissait la citadelle de nos espoirs.
Et Accent vous propose encore aujourd'hui une plongée au cœur de l'Europe pour comprendre ce qu'est devenue cette union, dernièrement mise à mal par le Brexit notamment. Alors à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans du traité de Rome, Dominique Piron nous emmène en Belgique, carrefour de l'Europe où fédéralisme et multiculturalisme sont de rigueur. Les Belges qui semblent pourtant de plus en plus éloignés de ce projet européen. Reportage.
Sur le campus universitaire Thomas More de Mechelen en Flandre, Jeroen Jokken du réseau d'information Europe Direct est chargé d'informer les scolaires.
Concrètement, l'Union européenne, vous pouvez déjà voir à quoi elle sert si vous regardez dans votre portefeuille. C'est là que c'est le plus évident. Aujourd'hui, on n'imagine pas vivre sans l'euro. Avant, il était très difficile d'échanger nos francs belges avec une autre monnaie pour partir en vacances, par exemple.
Après un quiz sur l'Union européenne, comme souvent, Yerwan s'aperçoit que les étudiants ne savent pas grand-chose de l'Union européenne.
Moi, j'ai appris de mes expériences précédentes qu'il ne fallait pas trop espérer du niveau de connaissance des étudiants. Ce que nous essayons de faire, c'est de les intéresser à l'Europe, ou du moins de les informer. Mais nous avons un pays compliqué en matière de politique. Donc, ajouter à cela la politique européenne, c'est difficile d'enseigner à des jeunes comment fonctionne la politique en Belgique. Donc, les intéresser à l'Union européenne, c'est un vrai défi.
To make them interested is a big challenge.
Pourtant, la leçon provoque quelques débats. À la sortie du cours, et bien que peu informés, les jeunes ont tous un avis sur le sujet, comme Steph et Caroline.
Je pense qu'en ce moment, il est important de rester ensemble et de travailler ensemble pour construire un monde meilleur. Alors que si chaque pays prend une direction différente, on ne pourra pas avancer aussi bien.
Nous sommes faibles si nous quittons l'Union européenne. Et en plus, avec Trump et Poutine, il vaut vraiment mieux rester tous unis.
Préserver une Europe unie ne fait donc pas de doute ici, bien que la Belgique soit elle-même divisée politiquement et linguistiquement. À Anvers, dans la partie flamande et néerlandophone de la Belgique, Janet Zuidema d'Europe Direct avoue que le fonctionnement de son pays n'est pas idéal.
Dans certains cas, les deux régions parviennent à travailler ensemble. Mais au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué à cause de nos deux langues notamment. Donc la plupart des décisions politiques sont régionalisées. En plus, en Flandre, il y a même des partis politiques qui voudraient se séparer de la partie francophone du pays, ce qui n'est pas vraiment un bon exemple pour la coopération européenne. Mais au moins, ils ne se battent pas entre eux, donc ça va.
La Belgique occupe aujourd'hui une place centrale en Europe, mais le fossé entre le projet européen, la politique belge et les citoyens semble encore se creuser. Frédéric, entrepreneur, la quarantaine, rencontré grâce au réseau social Couchsurfing, qui permet aux voyageurs d'entrer en contact avec des locaux, ne comprend plus vraiment l'intérêt de l'Union européenne.
Il n'y a qu'une raison pour expliquer pourquoi nous avons l'Union européenne, et c'est une raison financière. Mais à part ça, du point de vue social, culturel, des choses qui m'importent, en fait, eh bien, on n'a pas du tout besoin de l'Union européenne. Oui, bien sûr, on pourrait dire par exemple que tous les Européens devraient avoir un revenu de base, ok. Mais je crois que si la Belgique voulait le mettre en place, elle pourrait le faire toute seule, non ?
À Bruxelles, au contraire, l'Union européenne a eu un impact très concret sur le quotidien des habitants. Henri, qui organise des tables de conversation en français et en néerlandais dans la capitale, a vraiment vu sa ville changer.
Quand j'étais jeune, Bruxelles avait plutôt le cachet d'une ville un peu triste. En général, les néerlandophones, les flamands n'aiment pas Bruxelles, donc ils ne veulent certainement pas habiter ici ou rester ici. Et donc le soir, la ville était assez morte, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais avec l'arrivée de l'Union européenne, ça a complètement changé. Il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère, de tous les pays d'Europe, disons. Et en général, ils aiment bien la ville. Ils habitent généralement dans les quartiers relativement chics. Ils aiment bien le côté relativement décontracté, je crois, de la ville. Parce qu'on croit que, oui, toutes les règles viennent de Bruxelles, alors on a une idée, une ville rigoureuse, mais c'est absolument pas le cas.
Proche des institutions à Bruxelles, mais éloignés de leur politique, les citoyens belges ont malgré tout l'obligation de voter.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, on fait le point sur la face cachée des start-up. Depuis quelques temps déjà, les témoignages se multiplient pour dénoncer les réelles conditions de travail de ces jeunes qui choisissent de rejoindre ce nouveau monde plein de promesses, comme il aime à se définir. Alors vous en avez choisi un, écrit par une jeune Française installée à Berlin. Et on peut dire que le constat est sans appel, contenu d'ailleurs dans le titre « Comment j'ai survécu à la coolitude des start-up, Eve ?»
Oui, elle s'appelle Mathilde Ramadier, elle a 29 ans et elle fait partie de ces nombreux jeunes Européens qui ont fait le choix de s'installer à Berlin. Son rêve, vivre de sa plume. Alors avec ses diplômes d'art, de psychanalyse et de philosophie en poche, la jeune femme, déjà auteure de bande dessinée, a intégré pour gagner sa vie plusieurs start-up berlinoises. C'était entre 2011 et 2015. Elle a aujourd'hui choisi de faire partager son expérience et surtout ses désillusions avec un ouvrage qui, elle l'espère, libérera la parole des victimes consenties de ce monde des start-up.
Et on commence par une première désillusion, Eve. Ces postes qui font rêver sur le papier et qui sont rarement épanouissants.
Oui, c'est ce qu'elle nous a raconté hier lors de son interview. On l'écoute tout de suite.
On a tous un titre un peu ronflant, mais en réalité, le salaire ne suit pas et surtout les responsabilités et les prises de liberté non plus. Ce que j'ai découvert aussi qui m'a beaucoup peinée, c'est en fait le gâchis de talent qui découle de cela, c'est-à-dire que les start-up où j'étais recrutée toujours ou presque des bac plus 5 avec au moins 3 langues parlées couramment, un certain niveau de compétence en fait qui était loin d'être de celui de quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et au final, en fait, c'était pour s'adonner toute la journée à des tâches répétitives, peu gratifiantes. Et ça, en fait, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi être non seulement déçus, mais être même déprimés et complètement cyniques, en fait, au bout de quelques semaines seulement.
Autre mythe décortiqué par la jeune auteure, la régression généralisée.
Oui, car sous prétexte de jeunesse et de coolitude et de dynamisme, les employés sont traités en réalité comme de véritables enfants, Mathilde Ramadier.
Il y a des bonbons à la cuisine, il y a une salle de détente où souvent on a un flipper, baby-foot, comme si d'ailleurs tout le monde jouait à ça, en fait. Donc c'est uniformisé, c'est un procédé, en fait, de management de ressources humaines et même, je dirais, de psychologie, qui consiste, en fait, à rendre ludique des choses qui ne sont pas à la base pour obtenir un résultat.
En fait, résume Mathilde, ces jeunes employés consacrent tout leur temps à l'entreprise qui les nourrit, leur propose de nouveaux amis, donc leurs collègues, des espaces de jeu, de détente intégrés. Ils finissent par changer le monde, selon la formule consacrée, mais au prix de 70 heures par semaine pour des salaires de misère que, bien sûr, personne n'ose remettre en question.
J'ai vu des gens dire « oui, bon, c'est vrai, j'ai plus trop de vie à côté ». Tout ce que je fais, c'est que le samedi soir, je sors en club jusqu'au dimanche après-midi pour me défouler, puisque bon, c'est ça que font beaucoup de gens à Berlin. Mais à part ça, oui, j'ai plus le temps de voir mes amis, je rentre trop tard le soir, mais bon, ça vaut le coup. À Berlin, le phénomène est d'autant plus accentué que beaucoup de jeunes sont arrivés ici ces dernières années d'un autre pays d'Europe qui est encore plus en crise. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, à la Grèce évidemment, mais aussi à la France. Et ces jeunes-là, en fait, sont prêts à tout pour rester à Berlin, pour conserver la vie agréable qu'ils y ont, qui est moins chère que dans leur pays d'origine et plus douce. Et ça, c'est problématique.
Et pour ceux qui désirent encore rejoindre ce nouveau monde, malgré tout, quels conseils peut-on leur donner, Eve ?
Alors, 30% d'étudiants qui rêvent de travailler en start-up, selon un sondage du Figaro l'année dernière, Mathilde Ramadier conseille surtout de ne pas partir avec sa motivation en bandoulière et d'abandonner toute naïveté.
Mon conseil, c'est de rester méfiante, de faire la part des choses entre ce discours en fait mondialisé et ce discours de réussite et ce qu'il donne à voir et à faire en réalité. Et un peu regarder ce qui se passe derrière le rideau de la scène.
Voilà les conseils de Mathilde Ramadier. Si vous voulez continuer à regarder derrière le rideau de la scène, il y a donc son ouvrage « Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coulitude des startups ». C'est aux éditions Premier Parallèle. Merci Eve Minot, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est l'une des femmes les plus charismatiques en Afrique. Marguerite Barankitse sillonne l'Europe et le monde pour témoigner des souffrances du Burundi. Récompensée de nombreux prix comme celui de la Fondation Jacques Chirac, elle se bat pour que les enfants Hutu et Tutsi surmontent les haines. Olivier Bonnel l'a rencontrée au Vatican.
Marguerite Barankitse est une combattante. En 1993, son Burundi natal sombre dans les massacres. 72 de ses proches sont tués sous ses yeux. Armée de son courage, Marguerite descend dans la rue pour s'opposer aux représailles, mais sa priorité ce sont les enfants. Avec 25 orphelins, petits Hutus et Tutsis, elle crée Maison Shalom, une ONG qui devient un refuge où éducation et soins de santé sont dispensés, mais surtout où est infusée une culture pour accepter l'autre. Depuis 2015, la crise burundaise et les violences ont réveillé les fantômes du passé. Son langage direct et sa réussite gênent le pouvoir en place. Le 17 juin 2015, menacée de mort, Marguerite fuit Bujumbura pour s'installer au Rwanda voisin, avec cette même détermination à lutter contre la haine.
J'ai toujours été accusée parce que j'ai toujours voulu une vraie solidarité, un pays où il fait bon vivre. Ce beau pays où on pourrait vivre vraiment heureux, nous sommes des mendiants assis sur des lingots d'or.
Maggie, comme l'appellent ses amis, a ouvert à Kigali Oasis de Paix, un ancien hôtel avec un grand jardin où ses réfugiés y apprennent l'artisanat, y trouvent une écoute pour mieux surmonter l'exil et où se rêve l'avenir du Burundi.
J'ai osé rêver, juste allumer une petite bougie au milieu de ces ténèbres.
20 000 orphelins ont déjà été pris en charge par celle que tout le monde appelle l'ange du Burundi. Marguerite Barankitse tire une confiance inébranlable dans sa foi catholique. Avec sa conviction chevillée au corps, elle est revenue dire au Vatican que son pays, sa maman, le Burundi, comme elle dit avec affection, ne se relèvera que lorsqu'on y aura appris à pardonner.
À la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, le journal.